L'Assemblée doit à présent entendre une déclaration du Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Son Excellence John Key. Et je prie le service du protocole de l'accompagner à la tribune.
His Excellency John.
J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue à Son Excellence John Key, Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Monsieur le Président, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de cette Assemblée générale. Vous prenez les rênes à un moment important. Nous vous souhaitons plein succès et vous avez l'appui de la Nouvelle-Zélande. Les événements récents au Kenya, en Irak et au Pakistan montrent à quel point le monde peut être troublé. Nous commisérons avec les gouvernements et peuples de ces pays et présentons nos condoléances les plus sincères à ceux qui ont perdu des membres de famille et des amis dans ces incidents tragiques. Monsieur le Président, pour la plupart d'entre nous, nés après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont été au centre de notre conception de la façon dont le monde s'organise. Mais la réalité des Nations Unies peut être assez redoutable. C'est le lieu où les pays du monde se rencontrent, discutent, recherchent des solutions aux questions globales et régionales. Malheureusement, certaines de ces discussions sont parfois très théoriques et éloignées des sujets qu'ils prétendent traiter. Ceci est une préoccupation en particulier pour les petits États pour lesquels cette organisation est d'importance vitale. Et ce qui est encore plus triste, c'est que les Nations Unies, trop souvent, n'ont pas apporté de solution aux problèmes que le monde attend qu'elles résolvent. Le fossé entre aspiration et réalisation est très apparent, comme la situation en Syrie nous l'a rappelé de façon brutale. Mais tout échec de cette institution est moins un échec de l'organisation qu'un échec de nous, les États membres, et de ceux qui ont la responsabilité de diriger ces États. Il n'y aurait pas de situation humanitaire épouvantable en Syrie si les dirigeants de la Syrie avaient respecté les engagements pris envers la communauté internationale et le peuple syrien lorsque la Syrie s'est jointe à cette organisation et a ratifié les pactes de droits de l'homme. Cette organisation n'aurait pas non plus assisté impuissante à la tragédie syrienne pendant plus de 2 ans si l'absence d'un accord entre les membres permanents du Conseil de sécurité n'avait pas protégé le régime Assad, reconfirmant les craintes de la Nouvelle-Zélande et d'autres qui s'étaient opposés au veto à la conférence originale de San Francisco en 1945. La Nouvelle-Zélande est heureuse que le Conseil de sécurité se soit enfin réuni sur la situation en Syrie. Le secrétaire général a indiqué au Conseil et à l'Assemblée générale que la mission des Nations Unies avait maintenant confirmé sans équivoque et de façon objective que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie. Le rapport a trouvé des preuves claires et convaincantes que des missiles surface-surface contenant du sarine ont été utilisés le 21 août. L'information dans le rapport indique également très clairement que ces missiles ont dû être tiré par le régime syrien. Le secrétaire général l'a dit, il s'agit de crimes de guerre. Ceux qui sont responsables doivent rendre des comptes. Ceux qui essayent d'émettre des doutes sur les conclusions du rapport se ridiculisent et ne rendent pas service aux Nations Unies. Il est impératif maintenant que le Conseil agisse. Il doit adopter une résolution qui réponde à l'emploi d'armes chimiques. Il doit trouver le moyen de faire rendre des comptes aux responsables et d'établir un mécanisme effectif pour la destruction de ces armes, conformément à la proposition développée par les États-Unis et la Russie. La résolution doit également prévoir la protection de la population civile. Monsieur le Président, alors que la Syrie retient nécessairement notre attention, je voudrais également passer quelque temps à des développements plus positifs, tant pour cette organisation que pour ses États membres. Et je voudrais commencer par mon propre pays, la Nouvelle-Zélande, dont l'émergence en tant qu'État pleinement indépendant a eu lieu en parallèle avec le développement des Nations Unies. La Nouvelle-Zélande était présente lors de la fondation à San Francisco. Nous sommes fiers du fait que nous avons pu avoir une influence sur la rédaction de la charte, en particulier la section sur la tutelle qui a ouvert la voie à ce qu'un certain nombre d'États deviennent membres de plein droit de l'organisation. La Nouvelle-Zélande a beaucoup avancé depuis que la charte a été adoptée. À l'époque, nous venions de sortir de notre statut de dominion du Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous nous affirmons fièrement en tant que petit pays, mais un pays indépendant qui a tout un réseau d'amis, de relations commerciales dans toutes les régions et dans les grands marchés du monde. Nous attachons beaucoup d'importance à nos relations traditionnelles avec l'Australie et le Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord, alors que nous créons de nouveaux liens avec des partenaires en Asie, le reste des Amériques, Caraïbes et Afrique. Construire, soutenir les liens politiques commerciaux dans les différentes régions du monde n'est pas une petite affaire pour un pays comme la Nouvelle-Zélande. Nous sommes entourés par l'océan Pacifique et nous sommes à plus de 3 heures de vol de notre voisin le plus proche, l'Australie, dans une partie du monde les moins peuplées. Nous partageons avec nos voisins des îles du Pacifique le défi de la distance et de l'isolation. Et nous devons nous affirmer face à des pays beaucoup plus grands qui ont des économies d'échelle et la proximité des marchés, ce qui leur donne un avantage compétitif considérable. Ces facteurs ont renforcé l'approche de la Nouvelle-Zélande aux Nations Unies et aux autres organisations internationales qui ont mis en forme l'environnement post-Seconde Guerre mondiale. Nous avons une forte préférence pour une approche multilatéraliste reposant sur des règles, que ce soit aux Nations Unies, à l'Organisation mondiale du commerce ou la Banque mondiale. Nous savons que les règles et normes établies de façon internationale nous offrent la plus grande certitude et la plus grande protection. Nous retirons de la force des accords globaux et de l'engagement collectif qu'ils représentent. C'est pourquoi nous attachons une telle importance à ce que l'on termine les négociations de Doha. Alors que la Nouvelle-Zélande continue de négocier activement des accords bilatéraux et régionaux, nous reconnaissons que ces accords laissent souvent les pays les moins développés de côté. L'avantage de l'OMC, de même qu'aux Nations Unies, c'est que les règles qui y sont négociées s'appliquent dans le monde entier, quelle que soit votre dimension ou votre richesse. Notre préférence pour des règles internationales reflète l'approche nationale de la Nouvelle-Zélande à la gouvernance. Nous avons un système robuste et transparent de gouvernement et des institutions financières saines qui nous ont aidés à surmonter les pires effets de la crise financière mondiale. Ceci malgré les défis socio-économiques significatifs auxquels nous avons fait face après le tremblement de terre destructeur qui a frappé Christchurch, la deuxième ville, en 2011. Monsieur le Président, alors que nous travaillons pour reconstruire Christchurch, les Néo-Zélandais sont également conscients de leur dépendance et de leur responsabilité face à l'environnement naturel. En termes politiques, le changement climatique a été un défi pour la Nouvelle-Zélande et plus largement pour la communauté internationale. Mais les Néo-Zélandais savent qu'ils doivent jouer le rôle et agir. Nous avons introduit un plan d'échange des émissions extensif. Nous investissons dans l'Alliance de recherche globale pour trouver de nouveaux moyens de gérer les gaz à effet de serre de l'agriculture. Et nous nous sommes engagés à réduire les émissions de 5% en dessous des niveaux de 1990 d'ici à 2020. Nous avons pris cet engagement dans la convention cadre plutôt que le protocole de Tokyo. Ceci parce que, alors que Kyoto semblait offrir un moyen d'avancer, à un moment donné, les choses ont changé. Le protocole ne couvre maintenant qu'un petit pourcentage des émissions globales. Nous avons besoin d'un seul cadre juridique qui engage les principaux pays qui créent ces émissions. Monsieur le Président, alors que le changement climatique est une question importante, elle est mineure par rapport aux problèmes auxquels font face de nombreux membres des Nations Unies. L'un des problèmes les plus difficiles est celui d'Israël et de la Palestine. Tant que ce problème sera sans solution, il ne peut pas y avoir de paix assurée au Moyen-Orient et pas de sécurité pour la région dans son ensemble. Il ne peut pas y avoir de résolution sans que les peuples israéliens et palestiniens soient tous deux assurés de patries viables à l'intérieur de frontières sûres. La Nouvelle-Zélande rend hommage à la ténacité du secrétaire d'État Kerry et au courage du président Abbas et du premier ministre Netanyahou, qui ont accepté de reprendre le processus de paix du Moyen-Orient. Dans notre propre région, nous avons célébré la conclusion couronnée de succès de la mission des Nations Unies à Timor-Leste et la mission d'assistance régionale pour les îles Salomon. Il y a eu une transition, on est passé d'une opération militaire à une opération de police. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt le rétablissement de la démocratie à Fidji. Nous reconnaissons les développements positifs, y compris pour ce qui est de préparer les élections et inscrire les électeurs. Les pays du Pacifique, y compris la Nouvelle-Zélande, ont besoin que Fidji soit un pays qui connaisse le succès, qui soit démocratique et qui soit bien gouverné. Au début de l'année, la Nouvelle-Zélande a retiré la plus grande partie de ses forces de l'Afghanistan. Après la clôture de l'équipe de reconstruction provinciale qui était menée par la Nouvelle-Zélande dans la province de Bamiyan, qui a apporté la sécurité et a aidé à améliorer la gouvernance et le développement. Les écoles, les hôpitaux ont été reconstruits, les centres de santé ouverts, les taux de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans étaient réduits de moitié. Les décès maternels sont le quart de ce que c'était au niveau pendant l'ère des talibans. Les filles sont maintenant la moitié des enfants qui sont à l'école primaire. Par sa compétence, la Nouvelle-Zélande a également aidé de façon substantielle à améliorer le rendement de l'agriculture en utilisant des techniques modernes. Nous construisons le plus grand système d'énergie solaire en Afghanistan, ce qui apportera une source renouvelable d'électricité à la plus grande partie du township de Bamiyan. Ceci a été un grand engagement d'un petit pays situé très loin et aussi à un coût considérable. 10 de nos hommes et femmes ont perdu la vie pendant leur mission là-bas. Malgré cela, nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé en partenariat avec le peuple de Bamiyan et nous espérons que ces gains seront soutenus dans les années à venir. Monsieur le Président, en Afrique, nous voyons un continent où beaucoup de pays se sont trouvés face à des défis réels. Mais comme le président du Nigeria nous l'a rappelé au début de la semaine, la nouvelle histoire de l'Afrique est le nombre grandissant de pays de la région qui jouissent des avantages de la bonne gouvernance, d'une croissance économique saine et d'un développement entraînant des changements positifs dans tout le continent. Tout ceci est une bonne nouvelle pour l'Afrique et pour le monde. La Nouvelle-Zélande fera ce qu'elle pourra pour aider par le biais d'une assistance ciblée là où nous avons véritablement des compétences dans le domaine de l'agriculture, l'énergie renouvelable et de la bonne gouvernance. La Nouvelle-Zélande reconnaît également et appuie les rôles critiques de l'Union africaine et des organismes sous-régionaux africains pour assurer la sécurité et la prospérité future de l'Afrique. La Nouvelle-Zélande reconnaît également l'importance pour l'Afrique, pour la Caraïbe et pour notre propre région du traité sur le commerce des armes adopté en avril et signé par la Nouvelle-Zélande et beaucoup d'autres le 3 juin. Ce traité devrait réduire les flux d'armes légères et de petit calibre, et en particulier vers les régions de conflit, pour réduire le nombre de décès et de misères humaines qu'elles entraînent. Monsieur le Président, je me félicite des progrès qui ont été faits dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, tout en reconnaissant qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous avons maintenant besoin de travailler ensemble à un agenda de développement post-2015, concentré sur la création d'occasions économiques et élimination de la pauvreté. Bon nombre de ces mêmes questions seront traitées à la conférence des petits États insulaires en développement. Samoa en sera l'hôte l'année prochaine. La Nouvelle-Zélande est heureuse d'être un appui majeur à cet effort des Nations Unies et avec le reste du Pacifique, attend avec impatience l'occasion d'accueillir le monde dans notre région. Monsieur le Président, nous avons besoin de nous rappeler que les arrangements de bonne gouvernance, la transparence des processus sont également des vertus vitales pour les organisations internationales, y compris les Nations Unies. En fonction de toute évaluation objective, cette organisation n'a pas été équipée des structures et des règles dont elle a besoin pour opérer comme elle le devrait. Cependant, il y a eu une résistance profonde aux efforts d'améliorer les choses. Il faut que ceci change. La raison pour des réformes aux Nations Unies est claire. Il y a 4 fois plus de membres qu'en 1945. Pendant la même période, les organes clés, en particulier le Conseil de sécurité, sont devenus l'otage de leur propre tradition et des intérêts des plus puissants. Des années 50 jusqu'aux années 90, on pouvait blâmer la guerre froide quand le Conseil de sécurité n'agissait pas. Ça ne passe plus aujourd'hui. Les problèmes sont plus systémiques et ont trait à la fois à la composition et au processus formel et informel du Conseil. Nous semblons maintenant avoir une pratique voulant que les membres permanents peuvent non seulement bloquer des mesures par le Conseil par le veto, mais où ils semblent aussi avoir un accès privilégié à l'information et peuvent empêcher le Conseil de se réunir si cela ne répond pas à leurs objectifs collectifs. Ces comportements sont dommageables pour la réputation et la crédibilité de l'organisation. Et il faut les souligner. Il ne s'agit pas simplement de réforme de la charte, chose que nous le savons est difficile, mais il s'agit du fonctionnement effectif de l'organisation. Et c'est une question qui nous intéresse tous. La Nouvelle-Zélande ne préconise pas une révolution, mais nous disons que le Conseil peut et doit faire mieux dans la façon dont il fait son travail. C'est l'approche que la Nouvelle-Zélande apportera au Conseil de sécurité si nous sommes élus en octobre. Dans ce cas, cela aura fait 21 ans que la Nouvelle-Zélande a servi au Conseil pour la dernière fois. C'était il y a longtemps, mais pas au point qu'on ait oublié les leçons apprises pendant notre dernier mandat. En haut de la liste, le fait qu'il faut être engagé, écouter les préoccupations des autres, avoir un point de vue et une voix si on veut être pertinent. Et il ne sert à rien de se joindre au Conseil simplement pour occuper une place. Parfois, il faut parler et faire la lumière sur ce qui se passe ou ne se passe pas, même si cela peut être incommode pour d'autres. Et ceci s'applique que la question soit le Rwanda, la Somalie, le Yémen ou la Yougoslavie en 93-94, ou la République démocratique du Congo, ou le Soudan, ou la Syrie en 2013-14. Mon espoir est que lorsque les États membres prennent leurs décisions sur pour qui ils voteront en octobre 2014, ils se penchent sur ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande dans le passé et qu'ils sachent que nous serons une influence crédible, positive sur le Conseil de sécurité et que nous serons une voix pour œuvrant dans l'intérêt de l'organisation dans son ensemble. Monsieur le Président, je vous remercie.